Bienvenue à vous qui arrivez dans cette deuxième partie de C'est dans l'art. On a notamment fait un tour dans le musée du jeu vidéo d'Arcueil ou encore sur la chaîne YouTube d'Illusion. Allez bien évidemment l'écouter. Pour la suite, on parle musique, bande dessinée et on parle également cinéma. Et nous sommes avec Vladimir, Diane, Anaïs, Christophe et Violette.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
10 ans après son dernier album, Bruno Mars est de retour avec The Romantic, sorti le 27 février dernier. Anaïs, tu l'as écouté, dis-nous en plus.
Et oui, le 27 février dernier, le chanteur Bruno Mars a dévoilé un nouvel album en solo intitulé The Romantic. En effet, son dernier album datant d'il y a plus de 10 ans, il a débuté avec le premier single de ce dernier, I Just Might, qui connaît un important succès. À la suite de cette longue liste de tubes, vient s'ajouter les tubes suivants, donc When I Was Your Man, Grenade, Locked Out of Heaven, mais également le célèbre titre qui a détenu le plus grand record, Just the Way You Are. Cependant, et ce malgré sa longue absence, il est tout de même resté présent sur les ondes et les plateformes de streaming avec les chansons Die With A Smile avec la célèbre Lady Gaga qui est devenue en août 2024 la chanson ayant atteint 1 milliard d'écoutes sur Spotify ainsi que APT, interprétée en duo avec la sud-coréenne Rosé qui a été l'année suivante la plus écoutée dans le monde sur Apple Music. De plus, le chanteur Bruno Mars a formé le groupe Silk Sonic en compagnie du batteur Anderson Paak et produit l'enregistrement d'un disque rétro et soul intitulé An Evening with Silk Sonic en 2021, d'où a été extrait la chanson intitulée Leave the Door Open, ayant gagné 4 Gameys en 2022. Et donc du coup j'ai écouté cet album et franchement c'est un album qui vraiment fait penser au jazz. Et il y a une autre chanson aussi que c'est la première chanson, c'était la deuxième ou troisième piste de l'album que j'avais entendue aussi dans le top clip sur C'est Star en janvier 2026, donc début janvier donc.
Pourquoi tu as choisi cet album en particulier ?
Alors pourquoi j'ai choisi cet album ? Parce que déjà quand je suis allée sur Apple Music, lorsque j'ai découvert les nouveautés, je suis tombée dessus sur Bruno Mars. Et Bruno Mars c'était un chanteur que j'écoutais, voire même que j'entendais énormément sur les radios. Notamment quand il chantait en solo en 2010.
Ok, c'est ce qui t'a donné envie d'écouter l'album et,
C'est ça.
T'as écouté tout l'album ?
Non, pas tout l'album, non.
Ouais, une partie.
Une partie de l'album. Et même franchement aussi, ses derniers albums, son dernier album, à un moment donné, qu'il avait créé en solo 10 ans plus tôt, il y avait quand même pas mal d'albums qui donnaient beaucoup d'énergie. Enfin, plutôt pas mal de chansons plutôt.
Violette ?
C'est vrai que Bruno Mars, c'est un peu le chanteur de mon enfance. Enfin, c'est vraiment celui quand... Oui. quand il est arrivé. Il y a eu un haussement de sourcils.
Il y avait tellement de choses dans ce oui.
Mais c'est pas grave.
Admiratif.
Non, mais quand... C'est moi aussi, mon adolescence. Mais quand j'avais genre 12 ans, c'était très Bruno Mars, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai un peu lâché après, je dois avouer. C'est qu'il est revenu un peu avec des hits, j'ai vu qu'il avait un peu repercé sur les réseaux avec des notamment un réel brésilien, je crois qu'il a eu un peu une période brésilienne l'année dernière et c'est vrai que je n'ai pas du tout entendu cet album, mais en effet pourquoi pas se replonger.
Il est tout frais aussi, 27 février
ouais.
dernier.
Ouais, mais du coup ouais, envie de se replonger dans mon enfance, ma jeune adolescence.
Christophe ?
Écoutez, Bruno Mars c'est fait pour rendre heureux, non ? Donc on a tout de suite envie d'y courir pour aller écouter ça. Moi je connais pas très bien, mais curieux. Et puis, les sonorités jazz, ça m'a étonné. Je suis très curieux, j'ai très envie d'écouter.
Mais j'ai l'impression que c'est un artiste éclectique, parce que ce qu'il a fait avec Anderson Paak aussi, c'était vraiment... il variait aussi un peu les rythmes, il variait aussi les genres. J'ai l'impression qu'il s'arrête pas forcément. À un moment, il fait un peu de rap, après il va faire du R&B, après il va tester d'autres trucs. J'ai l'impression que il se laisse tranquillement, quoi. Comme avec Lady Gaga. Moi, j'avais complètement oublié Lady Gaga, comme Vladimir.
Bah ouais, ouais, non, en fait, moi j'ai jamais vraiment trop écouté, alors à part ses grands tubes, etc. Mais pour moi, Bruno Mars, c'était un peu genre le mec pop qui est très doué, etc. Mais c'était un peu le truc. Et j'ai redécouvert, parce que j'étais dans une grosse période Stevie Wonder, Motown, etc. Et pile à ce moment-là, il sort son truc avec Silk Sonic, qui est vraiment clairement inspiré des années 70. Ultra Motown, ultra, ultra soul, ultra. Et là, j'ai vu le mec et je me suis dit, putain, le mec, il est incroyablement brillant, quoi. Genre, déjà, sa voix, elle est absolument ouf, mais pas seulement ça, son placement, les clips, le fait qu'il joue un peu deux personnages qui sont un peu deux dragueurs très très losers, et en fait, en réalité, leur chanson, elle parle juste du fait qu'ils se font larguer, qu'ils sont juste un peu des gros nuls.
Donc le duo avec Anderson Paak.
Ouais, le duo avec Anderson Paak. Et c'est là, et genre, j'ai vu des versions live, je crois que j'avais rarement vu des versions live de morceaux aussi différentes de l'enregistrement et aussi bien foutues, bien mixées, bien jouées. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le mec, il est vraiment monstrueux, quoi. C'est vraiment un très très grand artiste. Après, bon, je suis pas forcément client de tout ce qu'il fait, mais quand tu regardes ce truc là, tu te dis, putain, le mec il a
bossé, quoi.
Ah ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais. C'est un peu comme Michael Jackson, tu vois, genre tu t'es pas obligé d'aimer, mais le mec il a une voix incroyable, une présence, ça joue, ça, très talentueux. Ouais.
Et puis ils sont pas sur les mêmes terrains, c'est à dire que Michael Jackson, quand il est arrivé, enfin il est arrivé, il a apporté quelque chose. Là, Bruno Mars, là c'est plus de la réinvention, etc. Yann,
je suis sur sa page Wikipédia parce que je me disais, il est d'origine hawaïenne.
Oui, en fait, je me suis pas risqué à dire de quelle origine il était.
J'ai juste tapé Bruno Mars sur Wikipédia, donc voilà.
Elle se risque.
Et en fait, il a grandi dans une famille de musiciens, donc je pense qu'il y a aussi ça qui joue dans le fait qu'il y a des musiciens de toutes influences dans sa famille, et du coup c'est peut-être aussi ça qui fait que au fil de sa vie il y a plusieurs styles, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs influences, etc. Mais du coup moi je suis en train de me dire, je pense que cet après-midi je vais taffer sur des trucs en écoutant Bruno Mars, ça va être très bien.
Art visuel, art médiatique, art de la scène, c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Étrange créature de Bianca Bagnarelli est sorti en roman graphique et Christophe, tu as choisi de nous en parler ce mois-ci dans la chronique bande dessinée.
Et oui, j'ai choisi le travail de cette illustratrice que je ne connaissais pas. C'est le dessin de la couverture qui m'a intrigué. On y voit une jeune femme avec un écouteur, ça s'appelle bien toujours comme ça, je crois. Un écouteur filaire dans une oreille, l'autre étant posé sur du carrelage. C'est très graphique comme j'aime, avec les lignes des joints du carrelage très rectiligne, et puis les courbes du haut du corps du personnage et le fil des écouteurs. En ouvrant le livre, j'ai réalisé que Bianca Bagnarelli, donc, qui est une illustratrice milanaise qui a travaillé pour le New York Times, la revue dessinée ou encore Vanity Fair, s'est donc confirmée. Je suis un homme très chic qui a très bon goût, et l'éditeur nous prévient. L'autrice développe depuis plus de 10 ans des récits à l'ambiance mélancolique et aborde avec subtilité l'impermanence des rapports humains. Voilà, c'est confirmé. Je suis un gros ringard. Ça fait 10 ans qu'elle fait des albums et je la découvre seulement.
Non mais t'as quand même dit New York Times, la revue dessinée ou encore Vanity Fair. Franchement, ça appelle, quoi. Alors, l'éditeur dit-il ou non la vérité ? As-tu bien trouvé ce qui est promis dans ce petit résumé ? Putain, tu me mets des relances avec un vouvoiement.
Mais oui. Avant de te répondre, laisse-moi te parler d'une caractéristique de ce livre. On connaît les BD, les romans graphiques et tout ce débat autour des deux pour savoir qui est quoi. Eh bien, Étrange Créature, c'est un recueil de nouvelles graphiques. Et oui, des nouvelles graphiques. Donc le récit regroupe 13 histoires de longueur variable. Certaines sont très courtes, 4 ou 5 pages, et d'autres font un peu plus. Les histoires racontées se déroulent aujourd'hui et les personnages sont plutôt jeunes, des enfants, des adolescents, de jeunes adultes. En général, on ne sait pas grand-chose de celui qui raconte ou de celle qui raconte. Elle revient sur un souvenir, une histoire passée. Il faut arriver à la page 195, voir sur le détail d'une image d'une nouvelle, donc, qui s'appelle Baba, un jeune garçon assis à son bureau devant son ordinateur. Sur l'écran, on peut lire « Racontez une expérience qui vous a profondément marqué ». Et là, on comprend, donc à la page 195, que le point commun de tous ces récits, c'est de raconter des expériences humaines fortes, comme disait l'éditeur, qui aborde avec subtilité l'impermanence des rapports humains.
On a compris, Christophe, tu as bien lu, mais dis-nous en plus.
Alors, j'ai trouvé que Bianca Bagnarelli maîtrise vraiment très bien l'art de la chute, qui est essentiel quand on écrit des nouvelles. Fût-elle illustrée, vous avez vu au passage un petit imparfait du subjonctif, là, hop là, ça en jette. Hein. Bon, allez, je vais vous divulguer une de ses histoires, une des plus courtes, une qui fait 2 pages recto verso. C'est une histoire d'amour entre un garçon et une fille, lui, c'est donc le garçon qui raconte, se demande pourquoi il est avec elle, ils sont très différents et ça se focalise pour lui sur le tennis. Elle adore ça et pas lui. Mais ils sont ensemble et ça, c'est une histoire qui tient. Puis un soir, ils vont à une fête avec des amis, des bourges, écrit-il, de la fille, des amis de la fille qui sont des bourges. Au passage, on notera qu'en Italie, bah, des gens qui vont au cours de français sont des bourges. Et là, ils découvrent... Et là, il découvre qu'il a une grosseur bizarre sur la nuque. Donc je reviens, on est dans la soirée. Il s'inquiète, nous aussi, il cherche un miroir. Et pour trouver un miroir pour pouvoir regarder sa nuque, il rentre dans la salle de bain. Il tombe sur sa copine qui est avec un autre garçon. Fin de l'histoire d'amour, c'est fini entre eux. Et la boule sur la nuque, me direz-vous, vous l'avez oublié? Ben nous aussi, quand on lit l'histoire. Eh bien lui, il conclut, en fin de compte, je m'étais inquiété pour rien. C'était un truc bénin, ça arrive à des tas de gens, il paraît. Eh bien en gros, il n'aurait pas touché sa nuque à ce moment-là. Il serait peut-être encore avec sa copine et il se serait jamais rien passé. Voilà, ça a été peut-être un peu laborieux quand je raconte, mais elle le fait en deux pages recto verso, j'y tiens, avec des destins qui n'illustrent pas du tout ce que je viens de vous raconter. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, c'est à la fois sa brièveté, sa capacité à lancer des fausses pistes avec très peu de choses, et sur ce qu'elle va, voilà. Et si je vous ai dit l'importance de la chute, j'ai aussi beaucoup aimé la manière dont elle attaque à chaque fois ces histoires, parce que dans la nouvelle, on dit toujours la chute, ça compte, il faut que ça soit un récit court avec une chute très forte. Elle a aussi un vrai talent pour choper des moments de vie, pour partir sur une histoire principale. Il y a par exemple un couple en vacances, à un moment, il se met à table quand une femme les interpelle, dit qu'elle a vu un loup. Et là, ou aussi une autre histoire, c'est Myriam, une fille qui va en boîte, qui se fait repousser quand elle veut embrasser une fille. On se dit, ah, ça va être une histoire d'amour queer entre les deux filles. Eh ben non, c'est autre chose. Donc voilà, elle a un vrai talent pour nous mener là où elle veut. Et ça, c'est, ben bravo.
Et surtout pour changer d'angle. On parle bien de roman graphique, mais tu dis rien des images.
Et mais j'y viens, minute, le dessin est simple.
Minute papillon.
Mais oui, papillon. On dit encore ça en 2009.
Minute papillon, ici au CERF, tous les matins à 7h40.
D'accord. Alors, papillon de lumière, le dessin est simple, plutôt réaliste. On est dans une sorte de ligne claire modernisée, ça donne une certaine étrangeté aux histoires. C'est le traitement des couleurs. On est plutôt dans les pastels, des couleurs douces, peu agressives. Mais Bianca Bagnarelli n'hésite pas à utiliser, ça j'ai trouvé ça génial, des dominantes qui mettent de l'étrangeté dans ses récits. Le premier récit dont je viens de vous parler, celui du couple là, qui voit une femme qui a vu des loups, eh bien, il surprend par sa dominante verte alors que l'histoire est censée se passer là, à une fin d'une journée d'été. Celle qui suit par exemple immédiatement, c'est l'histoire d'une prof de philo sadique, ça vous dit quelque chose à tous, eh bien, elle est en noir et blanc avec un peu de bleu. A l'inverse, une histoire qui est la plus déchirante de toutes qui s'appelle Les Poissons, bah, ça se passe au bord de la mer et la dominante est rose. Donc, moi j'ai vraiment adoré ce travail sur les couleurs et puis aussi sur un découpage qui est très fort avec des cases vraiment de toutes les tailles, des arrangements sur la page qui sont vraiment très très réussi, et ça m'étonne pas que ça plaise au New York Times ou à Vanity Fair, que je vous rappelle que je suis un homme très chic.
Verdict.
Eh bien, j'ai beaucoup aimé, je crois que ça s'entend, et je tiens à dire que je l'ai encore plus aimé la deuxième fois quand je l'ai relu pour préparer cette chronique, donc merci de me l'avoir fait faire, parce que ça m'a permis de le relire. L'univers de Bagnarelli est très riche, peut-être un peu trop, il y a deux nouvelles auxquelles j'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave, elle n'est pas responsable de mes limites intellectuelles. Ce qui est surtout important, c'est que réussir des nouvelles graphiques comme des nouvelles littéraires, ce n'est vraiment pas simple, et que globalement, les histoires sont originales, bien racontées, bien dessinées. Que demande le peuple?
Diane, tu seras la dernière à répondre.
Ok.
Parce que si vous avez suivi nos aventures, vous savez pourquoi. Vladimir.
Bah écoute, elle a l'air très chouette cette BD. Elle a l'air très bien, elle a l'air intéressante. Il y a des. J'aime beaucoup ces bandes dessinées. J'aime pas trop le terme roman graphique, parce que je trouve que ça fait justement un peu trop bourgeois, justement. Genre, moi j'aime pas les BD, moi je lis des romans graphiques. Moi j'aime pas les comic books, je lis des romans graphiques. Moi je dis, non, c'est des bandes dessinées, tout ça c'est des bandes dessinées. Il y a pas mal d'auteurs et d'autrices de bandes dessinées qui sont en mode, non, c'est une bande dessinée, un roman graphique, ça veut rien dire.
Ouais, mais tu fais quoi des livres qui sont traduits en roman graphique?
Eh bah, ça devient des BD, je sais pas.
Okay.
Ouais, je sais pas, genre un bouquin qui est adapté en film, bah ça devient un film.
D'accord.
Peut-être, je sais pas, je me dis. Bah après, bon, bref, ça c'est juste mon avis.
Non, mais ça je suis d'accord.
Et sinon, sur le truc, j'aime bien ouais, les petits espaces de vie, les petits moments de vie qui sont aussi racontés à travers des images. Et comme tu le dis, je crois qu'il n'y en a pas trop, quoi. Genre, je pense que j'ai l'impression que c'est quand même vraiment. Ça choisit bien ses cadres, ça choisit bien ses plans, ça choisit bien ses histoires, c'est efficace. Et donc, du coup, bah, c'est le genre de truc dans lequel je peux bien me plonger. En plus, chercher une BD à acheter. Donc.
Eh ben, parfait. Anaïs?
Eh ben, moi, personnellement, c'est vrai que je ne lis jamais de BD, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, oui, c'est plutôt pas mal. Surtout l'illustration avec la fille qui a son écouteur dans l'oreille.
Ouais, c'est très, très
surtout
beau.
Surtout
ça a l'air.
Elle est décadrée, en plus, j'ai oublié de le dire. C'est décadré, on ne voit pas entièrement le visage.
Ah ouais,
c'est super joli.
C'est pas mal. Violette?
Je ne lis pas non plus énormément de BD.
Mais que fait-elle,
vraiment?
Vous avez parlé de... comment ça s'appelle? Glacial?
Flux glacial. Flux glacial, ouais. Flux glacial que je lis de temps en temps.
Ok.
Ouais, il faut être plein de surprises.
Les Binochons et tout.
Exactement. Mais j'aime beaucoup... Enfin, quand j'en lis, j'aime bien le fait qu'il y ait des petites histoires comme ça. Parce que du coup, vu que j'en lis pas souvent, ça me permet aussi de faire des petites lectures, de la reposer, d'y revenir. Donc, en ça, ça me tente. Et j'aime bien aussi ce jeu des couleurs dont tu as parlé.
Ouais,
je trouve qu'en fait... elle fait ce qu'elle veut, quoi. Du coup, elle te montre vraiment qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'elle te plonge vraiment dans l'univers où elle veut t'emmener. Donc, non, ça me tente vraiment.
Diane, quand j'ai écouté Christophe parler, j'ai repensé à Sixtine Dano, oui. Sibylline.
Non, en plus, je travaille dessus en ce moment, donc ouais. C'est drôle.
Je te dis ça parce qu'en fait, elle laisse sous-entendre des choses, ce qui se retrouve vachement dans la BD de Sibylline. C'est-à-dire que quand
de Sixtine, ouais, sur ouais. Sibylline. Mais ouais, je suis totalement d'accord et je trouve que de montrer aussi des fois juste les histoires de vie, ça permet aussi de pas porter de jugement sur les personnes, mais juste de raconter la réalité. Et c'est ce qu'a fait Sixtine en travaillant sur la bande dessinée Sibylline, qui raconte donc le quotidien d'une jeune étudiante en archi qui arrive à Paris et qui commence à être escort girl, à se prostituer. Et en fait, bah, pour faire ce travail, elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches, de témoignages, etc. Donc, je suis d'accord. Mmh. Et sur le terme roman graphique, parce que du coup, je vais être mon petit intello de service. Pour information, le terme roman graphique, ça vient des Américains qui utilisent le mot graphic novel. Et ça a apparu en 1970 lors de la publication par Will Eisner, donc maintenant qui a un prix Eisner aux États-Unis, donc le prix de bande dessinée qui est très très, qui est un peu l'équivalent des Oscars mais pour la bande dessinée. Et en fait, c'est comme ça que ça a apparu aux États-Unis. Mais comme tu dis, Vladimir, une bande dessinée est une bande dessinée, un roman graphique est un roman graphique. Enfin, genre, c'est un peu un mot intello pour dire, ouais, moi je lis pas de la bande dessinée, je lis des romans.
Je crois qu'il y a Art Spiegel, parmi les gens, Art Spiegel et même Alan Moore, qui est genre vu comme un des plus grands créateurs de BD, qui en tout cas, eux, ils refusent ce terme en disant, bon, c'est pas du roman
mais,
graphique.
Mais lisez des bandes dessinées, qu'elles soient des romans graphiques. Mmh. Que vous lisez Boule et Bill ou que vous lisiez Étrange créature de Bianca Bagnoli, vous lisez des
ça
bandes
dit
dessinées.
Toi alors Étrange créature, t'en as pensé quoi?
Ça me plaît beaucoup et le jeu des couleurs aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis en train de lire une bande dessinée en ce moment sur le voyage et en fait c'est un recueil avec 5 histoires de femmes et chaque histoire est du coup sur un thème coloré en particulier et du coup on suit chaque partie avec des changements de couleurs et tout, c'est très beau. Donc je suis intéressée aussi par ça.
C'est quelle édition?
Gallimard bande dessinée.
Ça marche, super. J'allais dire, c'est pas, tant que c'est pas chez Hachette, c'est OK. Donc, Étrange créature, Bianca Bagnarelli, c'est aux éditions Hachette.
Gallimard bande dessinée.
Je me suis fait avoir. Gallimard bande dessinée.
C'est dans l'art. Sur Radio Campus Paris.
On va savoir pourquoi. Aujourd'hui, je suis très dissipée. C'est à toi, Violette.
Trop de sucre.
Alors, ces derniers mois ont été assez prolifiques en termes de sorties cinéma. Je suis sûre que vous n'avez pas pu rater Marty Suprême avec Timothée Chalamet en tête d'affiche ou Hurlevent avec le duo iconique de Jacob Elordi et Margot Robbie. Cependant, d'autres films beaucoup plus discrets mais tout aussi transcendants se sont glissés dans nos salles de ciné.
Tu l'as motivée pour qu'elle aille à l'université? Tu lui as expliqué pourquoi c'est une folie d'aller s'enfermer dans un couvent? Ces religieuses vivent cloîtrées.
Aynara, tu sais pourtant bien que tu peux tout me dire. Tu le sais, non?
Mélangez religion, adolescence, drames familiaux dans un environnement du Pays basque espagnol et vous aurez le cocktail parfait qui compose le film Los Domingos. Los Domingos, donc les dimanches en français, c'est un film de la réalisatrice espagnole Alauda Ruiz de Sua qui raconte l'histoire d'Ainara. Ainara, c'est une jeune fille de 17 ans qui vit à Bilbao avec son père et ses deux jeunes sœurs et qui étudie dans une institution catholique. Et très vite, cette jeune Ainara, elle annonce à sa famille qu'elle ressent en elle une vocation catholique qu'elle aimerait développer au cours d'un séjour au couvent. Dans sa famille, les réactions divergent. Alors que le père d'Ainara semble vouloir écouter et comprendre la volonté de sa fille, sa tante Maïté, très présente pour elle depuis le décès de la mère de la jeune fille, s'y oppose fermement.
Ok, donc religion, famille, couvent. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce film?
Alors si je vous en parle, c'est que j'ai vraiment adoré ce film. Los Domingos, c'est tout d'abord un film qui m'a plongé au cœur d'une famille. En fait, la réalisatrice, elle explique que ce qu'elle cherchait à faire, c'était de questionner l'institution familiale. Elle a choisi la vocation religieuse comme point de départ, mais pas comme cœur du récit. Ce film ne pose vraiment aucun jugement sur la vocation religieuse de cette jeune fille, mais elle cherche plutôt à comprendre ce qui l'y a poussé. Qui sont les personnages principaux de sa vie? Au fil de la trame, nous apprenons à connaître Ainara et ceux qui l'entourent. Son passé difficile avec la perte d'une mère que l'on comprend atteinte d'une maladie mentale et profondément religieuse. Le corps religieux qui la guide dans sa vocation, notamment un prêtre très jeune et moderne et une religieuse douce en apparence, mais en réalité ambiguë et légèrement manipulatrice. Ce qui est vraiment fort avec ce film, c'est que de nombreuses questions sont finement sous-entendues. Ainara est-elle manipulée? Est-ce qu'elle a accordé sa confiance aux mauvaises personnes? Quelles sont les intentions de son père? Est-elle capable de prendre une telle décision à 17 ans? Mais Los Domingos laisse le spectateur se faire sa propre opinion, sans jamais poser de bonnes ou de mauvaises options. Ce qui est plus fort encore, c'est que la réalisatrice est réellement parvenue à faire monter et à conserver du suspense pendant toute la durée du film. Chacun des personnages se dévoile avec ses complexités et ses secrets. On est tenu en haleine pour savoir si oui ou non, Dieu va appeler Ainara. Le jeu de l'actrice principale, Blanca Soroa, est d'une telle force que pendant une scène, elle peut te rappeler l'adolescente de 17 ans que tu étais qui découvre la vie, et celle d'après, une jeune fille portée par la religion et le mysticisme. Les jeux des actrices qui jouent sa tante Maïté et la religieuse sont aussi remarquables, car ils rendent compte de l'ambiguïté que nous portons chacun en nous. Et ce qui m'a particulièrement convaincue avec, avec Los Domingos, c'est qu'il te fait passer de ça... Et juste après, à ça. Voilà, Los Domingos, ce sont des montagnes russes d'émotions. Tu passes du rire aux larmes en étant légèrement mal à l'aise et angoissé tout du long. Et pour moi, quand tu ressens ça, bah, c'est un film que tu n'oublieras jamais. Vous l'aurez compris, je crois, j'ai réellement été emballée. Donc si vous n'avez pas vu Los Domingos, je vous encourage à foncer au ciné, vous le voir.
Tout simplement. Anaïs, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça t'a donné envie d'aller le voir ?
Eh bien, pourquoi pas, oui. Bon, c'est vrai que je ne vais pas forcément, je ne vais quasiment jamais au cinéma. La dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a fort longtemps, c'était en 2021. Mais oui, à voir s'il existe en audiodescription, ce film.
Vlad ?
Bah, il a l'air très touchant. Il a l'air très touchant et c'est bien. Là, je sais pas, genre les sorties là, en ce moment, ça me donnait pas vraiment envie entre les immenses blockbusters, Marty Suprême avec des gens qu'on voit tout le temps partout. C'est bien aussi de pouvoir toujours faire un petit coup de projecteur sur les films que tu vois moins dans les bandes annonces ou dans les affiches et tout. Surtout quand c'est des films un peu intimistes comme ça qui parlent de sujets un peu universels comme la famille. J'ai l'impression qu'il y a aussi une manière de représenter un peu les relations humaines un peu dans les gros blockbusters qui a tendance à vraiment se Netflixiser. En tout cas à partir un peu dans des relations humaines qui sont exagérées ou en tout cas qui sont trop poussées ou trop tirées à quatre épingles. Et là de ce que j'ai l'impression en tout cas de ce que tu nous racontes, c'est que ça a l'air d'être vraiment plus dans une authenticité qui doit faire du bien, je pense.
Ouais, c'est vraiment très fin en fait. Elle a réussi à amener les choses d'une manière très fine et sous-entendue. Donc moi c'est tout que ma cam.
C'est ce qu'on aime.
Diane.
Moi je suis très d'accord avec toi Vlad, je suis un peu saoulée de voir des films où il y a toujours les mêmes stéréotypes de personnages et pas toujours la même histoire, mais c'est si c'est cette histoire, c'est tel personnage plus tel personnage et après on connaît déjà la fin, etc. Donc oui, et bah ça revient à la chronique qu'a fait Christophe sur la bande dessinée. Je trouve que c'est nécessaire de raconter des histoires de vraies personnes et de pas de vraies personnes dans le sens des histoires autobiographiques, mais dans le sens des personnes de la vie de tous les jours et de raconter la réalité de ce que c'est. Parce que je vis dans une famille dysfonctionnelle, voilà, ma passion, je fais des séances de thérapie qui me coûtent 70 balles pour ça. Mais je trouve que c'est...
T'as pas été la seule.
mais bref, je trouve que c'est nécessaire parce que souvent tu te sens seule et un peu désarçonnée quand tu vois des choses qui sont tout le temps répétées partout et qui sont... répéter dans 40 000 histoires, bandes dessinées, livres, films, chansons, tout ce que tu veux. Et quand t'as pas de noir ou blanc, en fait, ça permet aussi de voir que c'est réel et que c'est proche de ce que tu vis et de ce que tu ressens.
Christophe ?
Il y a une importance au fait que ça se passe au Pays Basque. Je me demandais en t'écoutant, est-ce qu'il y a, il y a la culture basque qui est présente aussi, qui est une culture qu'on connaît pas forcément très bien ?
Pas tant que ça, en réalité, il parle basque à deux reprises. Ah oui. Donc pas tant, mais c'est vrai qu'il y a un peu, je sais pas, il y a un peu une ambiance, je sais que le cinéma et les séries basques sont un peu en train de monter en ce moment. Enfin, je sais que moi j'en ai vu plus passer, notamment sur Arte. Et donc je trouve que, je sais pas, il y a une ambiance qu'on retrouve un peu, il pleut, il fait un peu gris, tu vois, c'est le Pays Basque quoi. voilà, je sais pas si...
Non, et sinon le thème est intéressant, une jeune fille qui peut écouter de la dance et qui après à l'appel de Dieu, passer de l'un à l'autre, c'est... En tout cas, je trouve que le raccourci sonore que tu as trouvé est assez génial. Il donne vraiment envie de voir comment on peut faire cohabiter les deux dans un film.
Et puis, c'est un sujet vraiment original. Enfin, je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça, mais moi, jamais en tout cas.
Ouais, c'est ce que j'avais en tête.
Un appel
allé au couvent.
C'est pas trop dans l'air du temps, j'ai l'impression. Ouais. Ou peut-être que de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers la religion dans ces temps
incertains
et compliqués.
Non, mais je crois justement que c'est pas forcément religieux, mais les gens recherchent du silence. Et ils veulent justement aller dans des endroits qui sont calmes, et c'est vachement prisé, à un point tel que juste quelqu'un qui veut faire une retraite religieuse a du mal, parce qu'il y a aussi des personnes, on va dire laïques, parce que je sais pas comment le dire, qui veulent aussi...
Non-croyantes.
Agnostique peut-être,
non croyante,
mais qui veulent juste en fait avoir un temps de repos parce que justement entre les réseaux sociaux et juste le rythme de vie qui est très effréné surtout dans les grandes villes, ça ne permet pas de se reposer quoi. Donc il y a aussi cette envie d'aller dans un endroit beaucoup plus religieux, etc. Mais il y a une quête de spiritualité aussi, j'ai l'impression. Ouais.
Bah, le monde va mal, donc faut peut-être qu'on essaie de trouver de la confiance quelque part.
Ouais, et puis je crois aussi qu'on est arrivé à saturation, en termes...
Mais moi, je le sens en accompagnant des gens qui sont en rupture de la société, qui sont au RSA, etc., ou des personnes qui ont vécu des violences, etc.
Bah, pour préciser, c'est ton taf, en fait.
Oui, c'est mon taf, je suis conseillère en insertion. C'est souvent aussi un point d'accroche de est-ce que vous êtes croyant, est-ce que vous êtes croyante ? Bon, au moins, vous avez ça et c'est important de le garder, que ça vous fasse du bien, que ça vous mette en confiance aussi vers un projet nouveau, un projet autre. Donc, je pense que c'est aussi nécessaire pour des personnes qui ont vécu l'exil ou qui ont vécu des choses très dures dans leur vie, d'avoir ce point d'accroche de foi.
Ouais, juste la parenthèse spiritualité, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, c'est vrai que c'est un boost. Ouais. Dans les deux cas, en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment booster parce que c'est aussi des outils, entre guillemets, pour qu'on voit des thérapeutes ou qu'on voit des personnes de développement personnel. On arrive vite à ces moments de prenez du temps pour vous, essayez de vous focaliser sur quelque chose. Donc, en fait, ça devient vite quelque chose de rationnel. On n'est même plus dans de la religion. La spiritualité, c'est encore autre chose à part. Et c'est vrai que ça peut être des bons outils, quoi. Les Domingos, sortis le 11 février dernier en salle. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est dans l'art, tout ça touche à sa fin pour ce soir. Je crois qu'il était temps. Retrouvez-nous sur radiocampusparis.org, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM. Merci à toutes et tous.
Merci à toi.
Diane Hortense, non, mais elle sera là la prochaine fois. Je recommence. Anaïs, Christophe, Diane, Violette et Vladimir pour vos chroniques et vos réactions. Merci à Léa, à la technique. Je suis de retour avec très grand plaisir, avec grand plaisir. Dans 4 semaines, à l'animation, la soirée continue sur Radio Campus Paris pour nous réécouter les plateformes de podcast, mais aussi radiocampusparis.org. Suivez-nous également sur Instagram, c'est dans l'art, RCP, tout attaché. Portez-vous bien, bien évidemment. Vraiment, prenez soin de vous, surtout en ce moment, et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.